Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale d'Alain Brice. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Valérie Nivet-Doumer qui, à travers son ouvrage Le Préféré, aux éditions Anne Carrière, évoque la famille et ses problèmes avec, je dirais, en toile de fond, la France et le Brésil. Valérie Nivet-Doumer est critique littéraire pour le site culturel Culture Top, partenaire du site d'information, et son premier roman, c'est justement Le Préféré. Pourquoi j'ai voulu en savoir plus, c'est que Valérie Nivet-Doumer traite dans cet ouvrage des sujets de notre époque, des sujets qui nous touchent, la famille, l'adoption, le rôle de la mère, du père, les jeunes, leurs aspirations, le racisme, les secrets de famille. Donc, tout un programme que je suis contente de pouvoir échanger avec Valérie Nivet-Doumer. Valérie Nivet-Doumer, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, tout d'abord, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre, un livre intéressant que je n'ai pas lâché. Il se lit d'un trait, on est ému, on apprend beaucoup de choses, le style est agréable et le Brésil omniprésent, avec de fort jolies descriptions. Alors, on a l'impression, c'est ma première question, que le Brésil tient une place importante dans ce livre. Est-ce que dans votre vie, il en est de même ?
Oui, complètement. En fait, depuis 3 ans, le Brésil est vraiment entré dans ma vie parce qu'on est allé à l'occasion d'une visite dans le nord-est du pays, dans le Ceará, l'état du Ceará, qui est la région la plus pauvre du Brésil, rendre visite à une maison qui habitait. Et en fait, moi, je suis tombée complètement amoureuse de cet endroit. Et finalement, de ce coup de foudre, finalement, on a plongé et on a une petite maison dans un village de pêcheurs qui s'appelle Ponta de Limaceo et qui est un village qui vit que de la pêche et les gens sont très heureux. On a l'impression de faire un saut de 2 siècles en arrière et les gens ont tout le temps le sourire. Ouais, c'est une belle aventure.
On pourrait dire un petit peu autobiographique quant au pays.
En tout cas, le Brésil est en toile de fond dans mon livre, oui.
Alors, et l'écriture, est-ce que aussi vous avez été passionnée par le fait d'écrire ? Pourquoi est-ce seulement maintenant que vous écrivez ? J'ai l'impression que vous avez dû écrire déjà.
Oui, j'ai toujours aimé écrire et c'est vrai que j'ai écrit, j'ai fait un peu du rewriting pour les autres, j'ai écrit 2 scénarios, des nouvelles. Et c'est vrai que là, c'est mon premier roman. J'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Anne Carrière et elle m'a donné une réponse très rapide. Et voilà, donc c'est mon premier roman et qui voit le jour. Donc je suis
oui,
très heureuse.
Et qui est réussi parce qu'on le lit un peu même comme un roman policier, je pourrais dire.
Oui, c'est ce qu'on dit.
On a hâte d'arriver à la fin et c'est après qu'on se dit « Attends, il faut peut-être que je recommence un peu parce que je suis allée trop vite. » Alors, je dirais aussi que on pourrait présenter votre livre un peu comme une pièce grecque en 3 parties. Alors, les personnages, le sujet et le dénouement. Alors, j'en arrive tout de suite aux personnages. Alors, ce livre part, en fait, de l'anniversaire que partage Tom, un enfant de 6 ans, avec son frère Ben, un enfant adopté qui a un gâteau au chocolat, alors que Tom déteste le gâteau au chocolat et que depuis tout le temps, il demande à avoir un gâteau au citron. Alors, ce gâteau au citron, il ne l'aura jamais. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce que dans votre enfance, vous avez eu aussi des soucis comme ça ? Parce qu'on a l'impression que vraiment, toute cette difficulté des deux frères, eh bien, ça vient quand même un peu de ce goût de chocolat alors qu'il voulait le goût de citron. Alors que le citron, c'est quand même, ça râpe un peu.
Écoutez, moi, j'aime les deux. J'aime le chocolat et le citron. Non, ça c'est pas autobiographique du tout. J'ai trouvé que le thème m'a un peu interpellée parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre parler des familles qui avaient adopté.
Oui.
Et très souvent, quoi, très souvent, c'est pas du tout la majorité, loin de là, mais c'est de temps en temps, et on n'en parle pas, les enfants adoptés allaient bien, allaient plutôt bien, étaient plutôt bien intégrés, alors que les enfants biologiques de la même fratrie avaient des troubles psychologiques, et je me suis dit, tiens, c'est un angle qu'on n'aborde pas souvent.
Oui.
C'est vrai que l'adoption, ce sont les parents qui choisissent, que les enfants adoptés, je pense que les parents font tout ce qu'ils peuvent pour réussir cette intégration, pour que l'enfant soit heureux dans sa nouvelle vie, avec sa nouvelle culture, ses amitiés, etc. Et en fait, les autres enfants, finalement, ont tout pour être heureux, donc c'est pas un non-sujet, mais c'est quelque chose de presque plus naturel qu'ils soient heureux. Et souvent,
évident, vous voulez
évident,
dire.
Évident, voilà. Et je trouvais que c'était un angle qui m'intéressait de voir l'adoption à travers, justement, l'enfant biologique de la fratrie.
Oui. Alors, tout d'abord, la mère, je dois dire que moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre son attitude, parce que même la fin, on ne la dévoilera pas parce que c'est très intéressant, mais elle est vraiment pas sympathique quand même.
Je la souhaite à personne, cette mère.
Oui, et c'est le point de départ d'ailleurs de l'histoire. Alors, cette mère, comment...
Bah, d'abord, cette femme, elle est avant tout, c'est une femme qui a l'air autoritaire, qui je pense est malheureuse, parce que elle a l'air d'être, elle a une préférence flagrante en effet pour son fils adoptif, au détriment de son fils biologique qu'elle rejette d'une façon
oui, parce que
anormale.
Il a tout, ce garçon. Il est beau, il est le portrait de sa mère. Il est intelligent, il réussit très bien.
Et en fait, cet enfant, Tom, sent bien qu'il n'est pas aimé de sa mère, alors que lui l'adore. Et en fait, fait tout pour exister et être parfait. Donc, en effet, il est le premier de sa classe. En effet, il aide son frère à faire ses devoirs. Il est serviable, il est... mais rien n'y fait, et il essaye que sa mère le regarde déjà et qu'elle l'aime, mais il n'y arrive pas, et c'est pour ça que on abordera la seconde partie.
Voilà. Alors, j'en arrive au père. Alors là, le père, il est lâche, il n'est même pas heureux du succès de son fils, pourtant il est réussi à Sciences Po. Enfin, il est complètement aveugle, on dirait, ce père.
Oui, il est lâche, c'est le premier, c'est ce qui nous vient le plus naturellement à l'esprit. Il est lâche, il est surtout inexistant. Sa femme prend toute la place, elle est maître
oui,
femme
pourquoi
chez,
le,
chez
pourquoi
elle.
Le père
parce
n'a
qu'en
pas...
fait on le comprend plus à la fin, mais cette femme est complètement caractérielle, et pour avoir la paix, il préfère passer par tous les caprices de sa femme et abandonner son rôle de père pour justement être plus un mari qu'un père. Et aux yeux de son fils Tom, il est inexistant.
Inexistant, oui. Voilà. Alors, nous avons parlé de Tom, l'enfant vraiment biologique. Alors, il est vraiment mal aimé de ses parents. Alors, il y a juste une petite fille qui l'aime, c'est Anna. Alors, parlez-moi de cette petite Anna.
Alors, cette petite Anna, c'est une petite fille qui rencontre justement lors d'un anniversaire commun avec Ben, puisque leur mère a même pris la date d'anniversaire de Tom, puisque a décrété
que
son frère Ben n'avait pas de date de naissance. Du coup, il serait né, je dirais, il partagerait la même date, ce qui est un coup de plus Tom reçoit. Et lors de cet anniversaire où beaucoup de choses se déclenchent, ou en tout cas un ras-le-bol de la part de Tom, il y a une petite fille qui s'aperçoit en fait du mal-être de Tom, qu'elle le trouve très beau, et elle, elle, et en fait elle est assez fine, et elle arrive à décrire à décrire les sentiments de Tom. Et en fait, elle a une place, oui, elle a une place parce que, importante, parce que c'est elle qui, la première fois, regarde vraiment Tom.
Oui.
Alors que dans cette fête où il y a plein de Brésiliens, parce que les parents ont invité toute la communauté, en tout cas de Sud-Américains, leur communauté d'amis qui ont aussi adopté, Tom est perdu et encore une fois dans tout ce petit monde. Et cette petite fille le regarde et donc lui porte vraiment une attention particulière qui l'émeut. Et voilà, donc Anna est juste un peu un déclencheur.
Voilà, c'est ça. Et alors, il y a bien sûr Ben, l'enfant adopté. Alors, décrivez-nous Ben.
Alors Ben, c'est un enfant latino, gay, turbulent, charmeur, un peu manipulateur parce qu'il se rend très bien compte du pouvoir qu'il a autour de lui, de sa mère notamment, sur sa mère notamment. Et finalement, il aime bien être au centre. Et donc, quand parfois Tom a une nouvelle à annoncer, où il peut enfin exister, son petit frère fait tout pour détourner l'attention et pour la retrouver et que finalement tout le monde se tourne à nouveau vers lui. Ben est un frère qui adore son grand frère, un petit garçon qui adore son grand frère, mais qui est habitué à ce que Tom fasse tout ce qu'il veut, l'aide, et voilà. Donc,
il n'y a pas de gâté. Quoi.
L'enfant gâté, qui peut être très tête à claque parfois d'ailleurs.
Oui, c'est ça, comme tous les enfants gâtés. Et puis, alors, tragédie, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très grave, c'est que ce Ben va tomber amoureux.
Ben voilà, Ben qui a toutes les filles qu'il veut parce qu'il est très séducteur et que. Alors que Tom s'interdit même de regarder les filles parce qu'il se sent laid, détestable, puisqu'il n'a jamais été aimé. Et Ben vient le chercher un jour à sa sortie à la sortie de Sciences Po et voit cette Grace dont il tombe amoureux et qui veut absolument que Tom lui présente. Et puis finalement, Grace tombe amoureuse, elle veut Tom. Et donc là, il y a un vrai problème parce que Ben n'aime pas les choses qui lui résistent et les femmes encore moins. Et finalement, Tom et Grace tombent amoureux et finalement, Ben a son premier échec et c'est là où leur mère prend parti pour Ben en demandant à Tom de renoncer à cette femme.
Voilà, alors ça c'est vraiment le nœud du drame, si je puis dire, voilà. C'est qu'il va falloir que Tom, qui n'a jamais rien voulu absolument, là, qu'il veuille renoncer à Grace, la jeune fille, la première jeune fille dont il est amoureux,
exactement.
On peut dire. Et cette Grace, elle est aussi amoureuse de Tom.
Et voilà.
Et alors là, Ben va maigrir.
Alors Ben pousse le caprice à encore de plus loin et donc dit que tant que Tom ne rompra pas avec cette femme, parce que c'est lui qui la veut, et il fait une grève de la faim.
Voilà.
Et donc, il commence à maigrir. Les parents s'inquiètent. Évidemment, reportent la faute sur Tom. Et Tom commence, elle ne sait plus comment, par quel bout prendre cette situation et décide de partir.
Voilà. Il va décider de partir, mais dans un but bien précis.
Alors oui, dans un but bien, parce qu'en fait, Tom n'arrive pas à se construire. Il a plein de problèmes qu'il n'avait encore jamais résolus et qu'il poursuive, qu'il l'empêche de grandir. Et du coup, il déteste le Brésil et tout ce qui s'en approche parce que ça le rapproche de tout ce qu'il est finalement parce que est à Chaïté.
Oui, à Bahir.
Voilà. Mais finalement, il se dit que peut-être qu'il faudrait vaincre le mal par le mal et partir sur les traces du passé de Ben, peut-être pour retrouver ses origines, sa famille, pour essayer de lui-même. S'en sortir. En tout cas, il fait une croix définitive sur le passé et il arrive dans un autre pays.
Mais enfin, quand même, il part avec une idée bien fixe. C'est le désir de retrouver...
Le désir de retrouver la mère de Ben.
La mère de Ben. Et pour ce faire, il va quand même faire quelque... Enfin, il va quand même faire quelque chose dans la maison.
Oui, alors il retrouve en effet quelques papiers que dont le certificat de naissance de Ben,
voilà,
où est inscrit le nom simplement de la mère de Ben, la mère biologique de Ben, et avec sa date de naissance. Donc en fait, il a peu de choses en main. Il vole en fait les papiers précieux qu'Elisabeth, leur mère, avait toujours enfermés à clé. Et
il va partir.
Et il part au Brésil.
Je suis toujours avec Valérie Nivet-Doumer pour son livre Le Préféré. Et effectivement, nous avions dans une première partie évoqué les différents personnages et nous en étions à Tom qui part au Brésil pour en fait retrouver la mère de son frère adoptif, la mère de Ben. Et avant, il a retiré des papiers et je voudrais vous lire page 157. Après avoir lu avidement les quelques lignes de la première feuille que contenait le fameux dossier vert, Tom s'était jeté sur le passeport brésilien qui l'accompagnait. Il n'en croyait pas ses yeux. Une violence incontrôlée l'avait envahi. Il s'était emparé d'un marqueur rouge et avait inscrit en gros caractères un seul et unique mot sur le grand bloc qui traînait toujours sur le secrétaire de sa mère. Puis il avait rangé la feuille et le passeport dans la poche intérieure de sa veste, sans prendre la peine de refermer le tiroir ni le dossier vert. En claquant bruyamment la porte de l'appartement derrière lui, il n'avait pu s'empêcher de jurer tout haut ce qu'il venait d'écrire, menteux. Donc, vraiment, il a des problèmes très graves avec sa mère et il part. Ce qui est très intéressant, ça va être son voyage. Comment ça se passe ?
En fait, il arrive à Rio avec... Quelques affaires, mais vraiment pas grand-chose. Et il arrive, la première chose qu'il veut faire, il va sur la plage de Copacabana,
mmh,
et il va se baigner. Et il laisse toutes ses affaires sur la plage, et en les confiant à une dame juste à côté. Et en fait, à Copacabana, il y a des gros rouleaux. Et premier bain, et en fait... Il boit la tasse plusieurs fois, il a du mal à revenir et finalement il est à moitié en train de se noyer quand un jeune Brésilien vient le sortir de l'eau et le sauver. Et ils reviennent tous les deux là où il avait censé laisser ses affaires. Évidemment, il n'y avait plus rien. Donc en fait, il était à l'autre bout du monde en maillot de bain avec rien dans les poches, ne connaissant ni l'endroit, ni sachant parler vraiment, comprenant un peu, mais ne sachant pas vraiment parler le portugais.
Mais il a trouvé un bon ami.
Et en fait, voilà, son sauveur devient son meilleur ami très vite et l'initie un peu à la vie des cariocas, des gens de Rio. Parce que lui, c'est un garçon qui vient des favelas et qui a une vie... qui n'était pas aussi douce que celle de Tom.
Oui.
Et voilà.
Alors ce Ricardo, puisque Ricardo il y a, va donc accompagner Tom dans ce voyage, si j'en peux dire. Et ils vont voir beaucoup d'églises, parce que effectivement Tom pense que la mère de Ben a déposé l'enfant près d'une église. Et je lis ce passage, page 161. Ce marathon religieux qu'ils viennent de s'imposer l'a ébranlé lui aussi. Mais toutes ses émotions restent bloquées au fond de ses entrailles, lourdes comme des pierres. Tout est arrivé trop soudainement. Le choc est trop brutal pour être digéré en une petite semaine. Toutes ces merveilles qu'il ne soupçonnait même pas de pouvoir exister lui ont jailli au visage sans préavis et lui renvoient en miroir la futilité de sa misérable vie depuis 29 ans. Personne ne l'avait jamais emmené à l'intérieur d'une église et encore moins assisté à une messe. Et lorsqu'il était parti du domicile familial, les 24 heures qui constituaient ses journées avaient toujours été remplies à travailler ou à dormir, guidées par un seul objectif, la survie. Aujourd'hui, il réalise avec amertume qu'il est passé à côté de l'essentiel. Cette survie était vide de sens. Elle aurait été tellement moins rude si elle avait fait entrer un peu de beauté et de douceur dans son emploi du temps de minable. Donc effectivement, il y a déjà une spiritualité qui naît en quelque sorte dans ce pays, Ricardo et lui-même.
Ricardo, est, en effet, il a eu une enfance misérable et ça a continué toujours, parce que ça continuait encore jusqu'à ce qu'il rencontre Tom. Il vivait dans une famille qui lui a appris à voler, à rapporter tous les soirs. Et ensuite, il s'est enfui de chez lui le jour où on lui a demandé de se prostituer. Et là, il s'est débrouillé tout seul à partir de 13-14 ans. Il était livré à lui-même et... Et donc, il survit tant bien que mal. Et il n'a jamais, en effet, le temps de se poser et surtout encore moins de rentrer dans une église. Donc, c'est vrai que Tom a aussi cet indice quand il part au Brésil, c'est qu'on lui a toujours dit, que, et à Ben aussi, on leur a dit, que Ben avait été trouvé, Ben avait été sur, on l'a pas dit qu'ils avaient adopté, on lui avait dit qu'il était dans un couffin sur les marches d'une église. Oui. Donc c'était un des seuls indices qu'il avait. C'est pour ça que il sillonne toutes les églises de Salvador de Bahia. Oui.
Et jusqu'au jour où.
Alors jusqu'au jour où, en fait, il retrouve une femme. Qui faisait la même chose, c'est-à-dire qui venait tous les matins, qui avait le même rituel, et qui venait tous les matins devant une église particulière. Et c'est là où ils se disent que ça doit sans doute être peut-être la mère de Ben.
Et cette Maria, elle s'occupe d'une maison très importante. Racontez-nous un petit peu.
Alors, Maria est une femme avec un fort caractère. Elle est très charismatique, à la fois mystérieuse et totalement dévouée à la fondation qu'elle a créée,
oui.
Qui vient en aide aux enfants des rues, et où la plupart sont orphelins, et qui est basée sur 4 piliers, amour, art, morale et savoir. Et donc, elle essaye de les aider. Elle-même chez elle a 20 petits pensionnaires dont elle s'occupe, qui remplissent sa vie.
Oui, alors un court passage, je lis page 193. « Amour, art, morale et savoir sont les 4 piliers sur lesquels elle s'appuie et qu'elle considère comme indispensables à leur développement. C'est donc avec ténacité qu'elle s'escrime à appliquer cette recette magique depuis 10 ans sur une trentaine d'orphelins pour qui elle est devenue une vraie mère. » Une phrase très importante pour, dans ce livre.
Dans ce livre, oui. Oui, parce que justement, les deux garçons, évidemment, il y a ce premier indice où ils la retrouvent devant l'église. Ensuite, Maria n'a pas d'enfant, a priori, en tout cas de ce que voient Ricardo et Tom, mais se dévoue entièrement à des enfants, à des orphelins. Ce qui est un deuxième indice, parce qu'en effet, si elle a pu son fils, on pourrait imaginer que sa vie maintenant soit dévouée à d'autres enfants.
Voilà. Alors, il va donc errer dans les ruelles de Salvador, et je ne résiste pas au bonheur de vous lire cette description que j'ai beaucoup aimée dans votre ouvrage, page 221. Il se retrouve à errer dans les ruelles du centre historique de la ville haute de Salvador, ses yeux se posant sur de petites boutiques qu'il n'a jamais eu le temps de remarquer auparavant. Tel un somnambule, il traîne sa grande carcasse dans son propre quartier, comme s'il le découvrait pour la première fois, et le nez au vent se tord les chevilles sur les gros pavés anciens et inégaux qui recouvrent les chaussées de Pelourinho. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette ville, Tom prête attention aux touristes du monde entier qui déambule la mine réjouie en admirant les belles maisons coloniales, roses, bleues, jaunes, vertes, adossées les unes aux autres. Il se pose au sommet d'une rue pentue pour les observer un à un, débouler le souffle court, ébahi par ces espaces inattendus que forment les innombrables places de Pelourinho. Les yeux écarquillés d'admiration, il s'arrête, tente de saisir le pouls de la ville comme lui-même est en train de le faire à l'instant. Une semaine avant Pâques, l'ambiance est à la fois festive, fervente, ce qui est typiquement sud-américain. Cette ferveur, rythmée par les maracas, n'existe nulle part ailleurs. On sent que c'est du vécu, ça, non ?
Si, c'est du vécu. C'est vrai, vous avez raison. En fait, j'ai découvert Bahia, Salvador, en faisant la transatlantique, en partant de Dakar et en arrivant à Bahia.
Ah oui.
Sur un catamaran, on était 5. Et donc, après 13 jours de traversée, on est arrivé juste avant Noël à Salvador de Bahia, où il y avait une ambiance incroyable. Il y a des petits orchestres et à tous les coins de rue, les gens dansent partout. Il y a des gros Père Noël avec des planches de surf dans les bras.
Ah oui.
Donc, c'est une ambiance très particulière. Et c'est vrai qu'en même temps, on ressent à la fois la ferveur et la fête. Et c'est vrai que c'est un peuple qui aime bien réunir ces deux, la fête et la ferveur, oui, c'est tout à fait ça. Avant les fêtes, on ne voit pas ça, on voit pas ça en Europe à ce point-là.
Non, je pense pas. Non. Et alors, je trouve que là, dans ce livre, on voit vraiment bien et la France avec Paris, et puis le Brésil avec les églises, et la gaieté aussi.
La musique, la danse, oui, c'est vraiment une fête qu'ils expriment avec leur corps. Et ça, c'est vraiment très, 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 très particulier.
Alors, bien sûr, on ne va peut-être pas tout expliquer. Dites-nous quand même quelques mots pour que nos auditeurs sachent un petit peu ce qui va en être, sans surtout aller jusqu'à la dernière page, parce que c'est vraiment très intéressant, ce dénouement.
Oui, d'autant qu'il y a beaucoup de rebondissements à la fin.
Oui.
mais en tout cas ce séjour au Brésil va beaucoup aider Tom à se reconstruire. En fait, la famille qu'il n'a pas eue à Paris, il va la trouver avec Maria et Ricardo.
Oui.
Ça sera sa famille de cœur.
Exactement.
Et quand il reviendra en France, ça sera déjà un autre Tom qui pourra résoudre ses problèmes avec en tant qu'adulte et plus comme l'enfant qui avait sans défense lorsqu'il était parti.
Oui, alors ça, j'ai beaucoup aimé dans votre livre le fait de pour un enfant de devenir un homme, et c'est ce que va devenir Tom, comme vous venez de l'expliquer dans ce voyage au Brésil. On découvre aussi le racisme quand même, parce que Ben est quand même brésilien, et de temps en temps, eh bien, les enfants se moquent de lui.
Alors oui, on le voit au début du livre, quand Tom, le grand frère toujours prévenant et protecteur, va sauver encore une fois son petit frère dans la cour de récréation, qui est dans un coin rejeté par les autres élèves, qui lui disent qu'ils ne veulent pas jouer avec lui parce qu'il est sale, en fait. Voilà, Tom est métis, et Ben est métis, et Tom va encore une fois réussir à arranger et l'histoire, et finalement Ben va très bien s'en sortir.
Alors on voit vraiment bien comment un enfant qui n'a pas d'amour, même s'il a tout ce qu'il faut, eh bien souffre.
Il souffre, il grandit pas, et c'est vrai qu'il n'arrive pas à devenir un homme, à se réaliser. Et je crois que c'est vrai que c'est l'amour des parents, quand il n'est pas là, c'est compliqué de...
Oui. Et trop d'amour, comme Ben.
Et trop d'amour, parce qu'il était injustifié, cet amour.
C'est ça.
Ben savait très bien...
Ne rendait pas compte. Enfin, ne comprenait pas pourquoi.
Il ne comprenait pas, quand même, dans des situations où c'est lui qui aurait dû être... se faire attraper. C'est lui, cet homme qui aurait dû avoir la faveur de ses parents. Et ben, c'est toujours lui qui, finalement...
Voilà. Alors, on comprendra mieux à la fin, parce qu'il y a ce secret familial qui va être divulguer et qui va nous faire mieux comprendre pourquoi cette mère est si envahissante, si méchante parfois.
Ouais.
Vraiment un beau livre que je vous recommande, chers auditeurs, Le préféré de Valérie Nivet-Doumer aux éditions Anne Carrière. Édition Anne Carrière. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr.